Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, moins de paperasse et plus de patience, c'est ce que le ministre de la Santé nous a dit en faisant disparaître des formulaires de la CNESST, mais tantôt j'ai parlé avec un médecin et il en reste beaucoup de formulaires. Il y a encore pas mal de paperasse. Mais est-ce qu'on est dans la bonne direction pour régler la crise des urgences, le temps d'attente pour voir un spécialiste, les délais pour être opérés? Autrement dit, est-ce que Christian Dubé va réussir son pari d'améliorer l'accès? Nathalie.
Ah, et toute une question ce matin, Paul. Je vous dirais que l'enjeu de l'accès en santé au Québec, c'est comme un chemin de croix. Hein? Avant d'accéder à un médecin, à des soins ou encore une opération, ça peut être long, très, très long. Mais quand tu réussis à entrer dans le système, là, bingo, t'as gagné le gros lot, le jackpot, comme on dit, ça va bien. Puis c'est intéressant parce que hier, au moment où le ministre de la Santé confirmait la réduction de 2 formulaires, puis tu l'as dit, Paul, il reste encore beaucoup de travail à faire. Au moment où on apprenait cette nouvelle, ben le Montréal Gazette, confirmait. A publié 2 articles. Un premier article qui faisait état du temps aux urgences au Québec comparé à l'Angleterre. Puis, sans grande nouvelle, c'est au Québec qu'on attend le plus longtemps. Là. 2 patients sur 3, en moyenne, attendent sur civière plus de 24 heures. Il y avait un autre article, lui aussi, fort intéressant sur les longs mois qui sont imposés aux patients qui souhaitent voir un médecin spécialiste. 831 000 Québécois qui sont en attente de voir un médecin spécialiste. C'est pas rien. Alors, conclusion, les amis, la route va être encore très, très longue avant d'avoir un accès dit optimal au Québec en matière de soins de santé. Puis je donnais l'exemple du chemin de croix il y a quelques instants, mais c'est comme un Compostelle, tu sais, un chemin de Compostelle qui en finit plus de finir. Tu sais, écoute, tu penses que tu es arrivé.
Là, est-ce qu'on parle de la course à la direction du Parti libéral ou on parle de la situation du.
Non, mais okay. Tu vois, c'est. Tu fais 100 km, là, mais tu penses que tu arrives à destination. Ben non, toi, écoute, t'en as encore un autre 50 à faire. Ça me fait penser un peu à ça, l'enjeu de l'accès des soins de santé.
OK. Moi, j'ai eu le plaisir de parler à Gaétan Barrette hier, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas. Il est pas mal bon sur les chiffres. Là. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est bon. Le ministre a dit que les formulaires tels que ceux des assurances, ça, c'était à peu près 100 000. Après, ça avait un autre 18 000 qui était lié, tu as des formulaires d'accès aux soins de longue durée. En tout cas, en tout, tu avais 138 000. On sait qu'il y en a d'autres. Mettons que ça monte à 300, 400 000. C'est énormément de frustration. Les médecins sont tannés, ils trouvent ça ridicule, puis ils ont raison. Mais il y a 36 millions de visites chez des médecins par année au Québec. Alors, même si ça monte, là, si on prend tous les formulaires et on les élimine, puis on peut pas tous les éliminer, là, mettons que 300, 400 000 formulaires en moins, la frustration en moins, mais ça règle pas les questions des soins de santé. De santé est bien, bien, bien plus large que ça. Est à 4 niveaux. D'abord, les spécialistes, ça se divise en 2. Tu as 40% de toutes les demandes pour un spécialiste qui sont liées à des chirurgies. Puis il manque d'hôpital, puis il manque de blocs opératoires. Fait que ces 40%-là vont toujours être jamais dans le coude. Si on oublie ça, il n'y a rien qui va régler ça. Le deuxième, le reste des spécialistes, de tout type de spécialistes, que ça peut être gastro-entérologue, ophtalmologie. Bon, dans ce domaine-là, il y a des domaines dans lesquels il y en manque. Par contre, dermato. Il y a seulement 200 dermatos au Québec, puis là-dessus, tu en as 25% qui travaillent au privé. Fait que, puis ils travaillent au privé pour des soins esthétiques. Fait que tu as des domaines dans lesquels tu peux resserrer, puis tu peux dire on va former, mais ils ont décidé qu'ils allaient faire ça, le gouvernement y allait former, mais c'est parce que ça prend du temps à former.
Mais je te donne un exemple, puis là, on apprend qu'il y aura de la souplesse pour attirer les infirmières qui sont un personnel de santé en général, qui travaillent pour des agences, en disant votre ancienneté, on va vous donner 4 ou 5 ans, apprend ça ce matin, ça va être précisé, là. Est-ce que vous pensez que les gens qui travaillent pour des agences vont dire parfait, on retourne vers le secteur public?
Mais moi, je pense qu'il faut pas leur donner le choix, là. C'est-à-dire qu'il faut serrer la vis. Il faut serrer la vis. Les agences, là, pas tout du mauvais monde, là. Les agences, il y a des gens là-dedans, là, qui gèrent bien, qui gèrent pas plus cher que l'État. avec des prix très acceptables. T'sais, on a vu des agences où ils facturaient du 100$, 150$ de l'heure, ils s'en mettaient dans les poches, etc. C'est pas tout le monde qui est comme ça, là. Mais il y aura des agences tant qu'il y aura
Mais toi, tu travailles pour une agence, mettons, Nathalie, tu retournes-tu travailler à l'hôpital?
Non, pas du tout. Moi, je suis très sceptique parce que il y a l'enjeu de l'ancienneté, c'est une chose, mais il y a les horaires de travail. Pourquoi les travailleurs vont dans les agences souvent pour améliorer les horaires avec lesquels ils composent?
Ben voilà, moi, alors, je pense pas qu'ils vont y retourner parce que ça leur tente d'y retourner. Là. Ils vont y retourner s'ils n'ont pas le choix.
Plus que ça,
il faut qu'ils aient pas le choix.
Ben là, si tu dis, c'est parce que je ne fais plus affaire avec des agences. Les hôpitaux n'auront plus le droit de recourir.
C'est ça le plan.
OK, mais il va falloir qu'il y ait un arrimage, là. C'est parce que
c'est ça. Il y a une période de transition, là. Ça marche pas, là. Effectivement, qu'il y a des agences qui disent, dans la période de transition, puis même après, je vois pas comment vous allez faire pour vous passer de nous. Tu sais, il y a des directeurs de services qui appellent, j'ai besoin de deux parce que.
Vous appelez en cachette.
Ben, parce que t'as des quotas. T'as des quotas sur les étages où tu dois avoir un certain nombre d'infirmières par rapport au nombre de cas que tu as à traiter. Alors, ça se réglera pas tout de suite, là, c'est certain. Mais ce que dit le docteur Barrette sur les soins de santé, lui, en gros, si je résume, là, manque de spécialistes, manque de salles opératoires, manque de lits d'hôpitaux. Entre 2016 et 2030, une progression de la population dans la région de Montréal de 700 000 personnes, très peu de lits d'hôpitaux. Il manque 3000 lits d'hôpitaux. L'hôpital de Vaudreuil vient de construire, ils sont en train de construire, les grues sont là. Ça devait être 1000 lits, c'est 400 lits que ça va être finalement. Le parking, lui, est gros, par exemple. Puis, qui est gros en Simonac, je ne sais pas si tu as vu ça. Toujours est-il qu'il manque de lits d'hôpitaux, manque de spécialistes. Les omnis, la moitié des omnis font leur temps, puis travaillent fort, puis même là-dedans, il y en a qui travaillent très, très fort. Un quart, ça travaille un peu en dessous de la moyenne, un quart nettement en dessous de la moyenne. Là, il y a peut-être un potentiel. Mais tu sais, t'as le choix de dire, moi, je veux travailler en dessous de la moyenne. T'as le choix d'envie de dire ça. Mais il y a des régies de santé aux États-Unis qui te donnent pas ce choix-là. Tu viens travailler, c'est pour 40 heures. Sinon, tu viens pas.
Alors. Puis ajoute, Luc, au manque de lits, le fait que des personnes âgées, parce qu'ils n'ont pas de place, en résidence ou encore en CHSLD, se retrouvent à l'hôpital pendant des mois et des mois, là. Il y a cette autre réalité qui a émergé dans notre réseau de la santé qu'on ne connaissait pas il y a quelques années.
Oui. Et puis, ce que tu dis là, Nathalie, je trouve que ça met la table pour parler de l'éloge de la fuite dans beaucoup de domaines. Tu vois, parce que là, on vient de parler du manque de lits d'hôpitaux. On vient de parler du manque de lits dans CHSLD. Puis, on a eu le rapport sur les soins de santé où on dit, à domicile, où on dit on n'arrive pas à donner qu'un faible pourcentage des soins de santé. Puis, il y a les maisons de répit, puis tout ça. La signature de la CAQ, c'est de dire, nous autres, on s'en vient ici, on va régler les problèmes de base. T'sais. Il va y avoir une place en garderie pour tout le monde va avoir un médecin de famille, le système de justice va fonctionner correctement. Et là, on se rend compte que non, que ça n'arrivera pas, ça ne se produira pas. C'est pas pour rien qu'il tombe dans les sondages.
Et sur les formulaires, est-ce que je peux vous donner deux petits exemples d'absurdité, de formulaires à remplir là? Hier, les auditeurs, j'ai fait ce sujet-là, les auditeurs écrivaient, par exemple, il y a un auditeur qui écrit « Mon père qui est amputé d'une jambe, à chaque année, devait remplir un formulaire, de faire remplir un formulaire par son médecin pour prouver qu'il était toujours amputé. » Tu sais, comme si la jambe allait repousser. Ça, c'est un exemple concret. Non, mais c'est complètement ridicule.
Signé le frère André, là, tu sais, c'est...
Un autre exemple, la mère doit encore prouver que sa fille est encore handicapée, puis sa fille a 20 ans maintenant. C'est un autre exemple, c'est Carl qui nous a écrit, ma mère de 85 ans, sourde et muette depuis l'âge de 5 ans, doit encore faire des examens pour prouver sa surdité pour recevoir son crédit d'impôt. Je veux dire, en termes de... Tu sais, quand on dit qu'il y a encore du travail à faire, là...
Oui, écoute, ça, c'est parce qu'il y a eu de la tricherie.
Non, mais oui, OK, mais m'a donné un exemple. Le docteur Eppel, qui est un médecin de famille à Sherbrooke, il nous disait ce matin, un cas récent, là, une jeune fille qui se casse un poignet, je pense, qui a besoin d'un plâtre, va faire le plâtre et revient le voir en lui disant « J'ai besoin d'un billet pour m'exempter du cours d'éducation physique. » Me semble que t'es le prof. As-tu besoin d'un billet?
Ben,
quelqu'un
oui,
qui a un plâtre.
Tellement raison. Ben, tellement.
Mais ça, c'est de notre faute. Hein?
Je le sais que
c'est de notre faute. C'est parce que là, il y a une fois dans une école, quelqu'un a eu un reportage. Ma fille a été obligée d'aller en éducation physique alors qu'elle était blessée. Ou l'inverse. Ma fille était, son bras était réparé depuis deux semaines pis avec la photo. Puis la fille devant sa maison avec sa fille puis sa mère puis le chien puis ça passe dans le journal de Montréal en boucle pendant des jours à télévision. À un moment donné, ils disent, OK, c'est correct. Que moi, je prends plus de chance. Tu vas aller à l'hôpital, tu vas te faire faire un test. C'est ça le Québec. C'est qu'on a tellement joué sur l'espèce de démagogie d'information human interest. Dans tous les domaines. Ben oui, fait que tout le monde se protège avec des formulaires et des bureaucraties.
On a peur d'avoir peur. On a peur d'avoir peur. On a peur d'avoir peur.
Est
l'imputabilité est tirée. On étire l'élastique de l'imputabilité comme ça se peut pas, là.
Et on est un peuple de farce et attrape. Tu comprends? On a assez. C'est joué dans le système. Tu sais, on n'est pas pire, là. Ouais. Je me souviens du verglas. Ça n'a pas pris de 12 heures après le début de la crise du verglas. Les moitiés-moitiés étaient disponibles, là, tu sais, en fraude, là. Puis des pots, là.
T'sais, c'est quoi les moitiés-moitiés?
Ben, les gens, c'était des fraudeurs. Ils cognaient aux portes en disant, c'est pour aider les sinistrés.
Ah oui, ben
exact,
oui.
C'était un concours qui n'existait pas. Des photographies. Bon. Des photos de congélateur. Connais-tu quelqu'un, toi, qui prend la photo de son congélateur? Et là, t'arrives chez ton assureur, tu disais, tu as remarqué, filet mignon, crevette. Un peuple de fer, ça attrape. Bon, au retour, les demandeurs d'asile. Là, il y en a trop, puis on sait plus quoi faire avec eux autres.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, le dossier des demandeurs d'asile, quatre ministres sont sortis hier en disant essentiellement le fédéral nous doit 1 milliard pour régler les coûts. Mais plus sérieusement, le Québec est au bord d'une crise humanitaire. Là, on attend de voir la réponse du fédéral. M. Trudeau se contente de mots pour l'instant. Et est-ce qu'il va donner raison au Québec ou pas? Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il fait une erreur en faisant la sourde oreille pour l'instant? Luc?
Mais moi, je pense qu'il n'y a aucune possibilité que ça fonctionne. Je crois que le fédéral va faire la sourde oreille. Si on a 60 % des demandeurs d'asile ici, ça veut dire qu'il y en a juste 40 % dans le reste du Canada, divisé par 9 provinces. Pourquoi qu'ils s'énerveraient avec ça? Je veux dire, à moins qu'ils commencent à regarder le vote du Québec, parce que c'est à peu près là qu'il y a des chances de se faire élire des députés, alors que les conservateurs sont dominants dans pas mal d'autres provinces. Mais en gros, le fédéral a toujours eu la même approche. Puis, hey, rappelez-vous, quand la CAQ est rentrée au pouvoir, là, ça faisait pas 2 jours qu'il était au pouvoir que Legault demandait une diminution du nombre de réfugiés politiques. À l'époque, il y en avait 9 500, puis il disait « j'en veux pas plus que 7 500 ». Puis, à la même époque, Trudeau se promenait dans toutes les capitales du monde en disant « le Canada est une terre d'accueil, puis on va en accepter ». Ils se parlaient pas, ils se sont jamais parlé sur ce dossier-là. Je pense pas qu'ils vont commencer à se parler demain matin. Il y a des vrais réfugiés politiques. On se rappelle qu'il y a eu une crise, une guerre en Syrie, une guerre en Afghanistan. Puis là, on en voulait là, de ces réfugiés-là, notamment d'Afghanistan. Là. Rappelez-vous les traducteurs là, de l'armée canadienne qui avaient été des collaborateurs pendant des années. Bon, pas de rentrer au pays. Puis t'as eu l'Ukraine. On en voulait des Ukrainiens. Puis pendant des années, les réfugiés politiques allaient dans le reste du Canada, puis on était bien contents, puis on disait pas un mot. Fait que maintenant qu'ils viennent au Québec, on dit « Non, vous allez prendre votre part. » Mais pendant ces années-là, on la prenait pas notre part. Ils en allaient tout le temps en Ontario. Parce qu'il y avait des racines là-bas à cause de leur famille. Alors, moi, sur la question du contexte de l'entente entre les deux, je crois pas qu'il y a aucune entente possible entre les deux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai qu'il y a une crise. C'est vrai qu'il y a une augmentation, puis c'est vrai que ça a des conséquences. Là. On l'a vu sur les classes d'accueil, on l'a vu avec l'aide sociale. L'aide sociale s'est rendue 10 % des coûts d'aide sociale, et non pas 30 % là, comme ça a été écrit à certains endroits, c'est 10 % dans les classes d'accueil, on dit qu'ils ont ouvert l'équivalent d'une cinquantaine d'écoles en termes de nombre de classes. On n'oublie pas quand même qu'il y a 2000 écoles au Québec, dont 25 000 classes à peu près. Fait que quand même que c'est vrai qu'il y a 1200 classes d'accueil qui ont été ouvertes, ça reste quand même une proportion faible du total, mettons 4 %. Fait que c'est une vraie crise, il faut la dimensionner, elle ne se réglera pas. Et quand je reparlais tantôt, je vais parler pourquoi aussi elle ne se réglera pas, parce que la CAQ refuse et refuse et refuse de voir le système dans son ensemble. Il s'intéresse juste aux réfugiés, il ne s'intéresse pas à tous les immigrants temporaires.
Hier, en réaction de la conférence de presse des quatre ministres, faut quand même le dire, le quatre ministres en conférence de presse, ce n'est pas rien. Le message envoyé au gouvernement fédéral, c'est que là, on déploie une autre stratégie pour augmenter la pression sur Ottawa. La réponse du premier ministre, M. Trudeau, c'était de dire, écoutez, le système d'immigration au Canada est fonctionnel et il est rigoureux. Là, c'est le moment où je me suis étouffée avec ma gorge d'eau, parce que le système d'immigration au Québec est loin d'être fonctionnel, je crois, et la pression qu'exerce tous ces immigrants qu'on accueille chez nous créent une réelle pression. Là. C'est le Québec, mais c'est aussi Ottawa. Hier, le maire d'Ottawa faisait une sortie pour réclamer de l'aide, du soutien de la part d'Ottawa pour gérer tout cet afflux de migrants dans sa ville. Même chose pour la mairesse de Toronto. Mais c'est vrai que du côté du Québec, la crise, elle est réelle. Alors là, on est engagé dans un dialogue de sourds et je ne crois pas, comme tu le dis, là, que ça va se régler à court terme. Quelle autre pression pourrait mettre le Québec pour pour convaincre Ottawa d'y arriver, c'est peut-être de faire front commun avec d'autres, avec des maires de l'Ontario, avec Doug Ford, par exemple. Mais clairement, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ce qui m'étonne de la part de Justin Trudeau dans sa position, c'est que je ne vois pas comment Justin Trudeau pourrait aller en élection en portant le poids d'une crise humanitaire au Québec. Il a besoin de faire le plein d'électeurs au Québec. Alors ça, bien sûr, ça sera un enjeu de la prochaine campagne. L'image qui m'est venue en tête en écoutant Justin Trudeau hier, c'est la suivante. Le Québec a besoin d'oxygène, puis le réflexe d'Ottawa, c'est de fermer la bonbonne. C'est carrément ça. Alors, on a besoin de souffler, puis le Québec, l'Ottawa ferme la bonbonne. L'autre chose qui m'a énormément choqué dans la position du Québec, et je trouve ça extrêmement désolant. Hier, le ministre Jean-François Roberge a une fois de plus utilisé la marionnette, le spectre de la menace à l'identité québécoise pour justifier la position du Québec par rapport à l'afflux de demandeurs d'asile. Le ministre a déclaré que l'identité québécoise est menacée par cet afflux de demandeurs d'asile. Ce que le ministre aurait pu ajouter ajouter en termes de reconnaissance de la réalité, c'est que les demandeurs d'asile, ils passent pas des années sur l'aide sociale. Je serais drôle d'avoir des statistiques là-dessus, là. 10% de l'aide sociale, c'est demandeurs d'asile, mais ils passent quoi? 2-3 mois sur l'aide sociale. Puis aussitôt qu'ils ont permis de travail, ben, ils vont travailler. Puis les demandeurs d'asile, ben, c'est ceux qui nous ont sauvé la peau durant la COVID dans nos CHSLD. Alors, un peu de reconnaissance, s'il vous plaît, pour tous ces demandeurs d'asile qui rapidement se mettent au travail pour faire fonctionner l'économie du Québec.
Ça, c'est important de dire ça, que les demandeurs d'asile ne sont pas des gens uniquement sur l'aide sociale. Et c'est ce que la ministre Fréchette a répondu à Clich-Rivard. Parce que Clich-Rivard, hier, Guillaume Clich-Rivard de Québec solidaire, il disait, si ça prend un an à Ottawa pour vous fournir les papiers, pour que ces gens-là puissent travailler, faites un document québécois pour qu'ils puissent travailler tout de suite. Et elle, de lui répondre, mais non, parce que depuis quelques semaines, le problème est réglé. Le problème est réglé. 80% des demandeurs d'asile reçoivent actuellement leur permis de travail à l'intérieur de 77 jours. Parce qu'il y a eu pression sur Ottawa et ce n'est plus un problème. Donc, les demandeurs d'asile, ce sont des gens qui travaillent peut-être un peu moins que les travailleurs temporaires, parce que les travailleurs temporaires, ils sont convoqués au Canada parce qu'ils ont été convoqués par un employeur. Un demandeur d'asile se promène puis cherche une job. Mais dans une économie en plein emploi, se promener puis chercher une job, ça marche. Il y en a des emplois nécessaires.
Mais il y a un élément qui ressort peu, je trouve. Puis quand on joue avec l'identité, là, c'est un couteau à deux tranchants. Rappelons-nous Jean Boulay à la dernière campagne électorale. Immigrant paresseux, là, ça se souvient. Bon. Il y a un président d'une entreprise, moyenne entreprise, qui dit qu'il embauche des travailleurs par le biais des programmes de réfugiés puis autres. Puis il dit, ces gens-là veulent travailler, mais ils ont des difficultés parce qu'ils arrivent, il faut qu'ils s'installent, il faut qu'ils travaillent, puis on veut les franciser.
Ah oui.
C'est pas vrai là que tu vas trouver des programmes de francisation rapides. C'est pas vrai que tu vas apprendre le français très rapidement. C'est une langue qui est complexe, là, qui est pas bon. Fait qu'il dit, on perd souvent des travailleurs qui vont en Ontario, puis qui vont en Alberta ou qui vont ailleurs au Canada parce qu'il n'y a pas cette contrainte-là. T'sais?
Mais moi, c'est de ça que je voulais vous parler. Les travailleurs temporaires puis les demandeurs d'asile, c'est la même affaire. Là. Quand on dit ils occupent nos classes de francisation, quand on dit ils sont pas tous intégrables, on peut pas tous les intégrer à la langue française notamment, et quand on dit ils occupent des logements, parce qu'il y a la crise du logement aussi, c'est la même affaire que pour les travailleurs temporaires. Et quand Legault s'obstine à ne parler que des demandeurs d'asile et non pas des travailleurs temporaires, moi, je vais raconter une petite histoire personnelle, là. Moi, mon fils s'est fait expulser de son école de quartier parce que la même année est arrivé 12 dans sa seule classe, 12 nouveaux enfants. J'ai demandé comment ça, 12 enfants dans. Puis nous autres, il y a un critère géographique. Là, tu regardes qui est plus proche de l'école, puis c'est ceux qui sont les plus proches de l'école qui vont avoir la job. C'est pas le maire. Tu sais, c'est ceux qui sont les plus proches de l'école. Fait que c'est arrivé 12 nouveaux enfants. C'est quoi cette affaire-là? Ben ça, c'est des agences qui font venir essentiellement des Français de France, qui ont toute mon estime. C'est pas pour ça que ce sont des travailleurs temporaires. Ils viennent travailler dans, par exemple, chez Ubisoft ou chez Airbus. Puis ils veulent une maison avec une école de qualité. qualité à côté, puis on le retrouve, puis c'est sur le plateau Mont-Royal ou assez à Outremont. Fait que les travailleurs temporaires, je l'ai vécu, là, expulsion de l'école, tu sais. Donc, je l'ai vécu et c'était des travailleurs temporaires, ce n'était pas des réfugiés. Fait que moi, ça m'enrage de voir, à cause de cette expérience personnelle-là, ça m'enrage de voir le ministre faire constamment pression sur les réfugiés, puis ne pas parler des travailleurs temporaires.
Nathalie. Mais est-ce que ça prendra un référendum sur l'enjeu de l'immigration pour faire plier Ottawa? La ministre a évoqué cette possibilité là, à peine voilée, mais peut-être, je sais pas.
Mais je vais te lancer une autre. J'ai posé la question au ministre Roberge, là, il m'a dit on n'est pas rendu là. Mais aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des réfugiés, oui, le mur, mais ils ont mis des réfugiés qui arrivaient au Texas, par exemple, dans des autobus, Boston, New York, en disant, voulez-vous libre? Est-ce qu'on prend des
autobus pour les envoyer en Ontario?
Mais non, je peux pas croire qu'on va faire ça, là.
Ben, on l'a fait un peu, Robert, il me disait que dans le cas du chemin Roxham, on n'a pas permis à des gens de rester au Québec, on les a dirigés
à Niagara. Pendant la saison hivernale, il y a occupé les hôtels, puis à un moment donné, quand le printemps est arrivé, les hôtels, ils ont dit,
venez chercher votre monde.
C'est ça.
Merci à tous les deux. On vous retrouve évidemment demain.
C'est 23.